Le moment Vita Citral de Laurence.
Bricolage, jardinage, cuisine, mes mains sont très sollicitées. J'utilise depuis toujours les soins pour les mains Vita Citral. Et mon essentiel, c'est le soin Hydra Défense. Il apaise, diminue les rugosités et hydrate intensément mes mains pendant 24 heures. Enrichi en huile d'échium et baie d'argousier, il améliore le confort de ma peau.
Vita Citral, la gamme experte du soin des mains des laboratoires Acepta, en pharmacie et parapharmacie.
France Culture. Sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Vendredi 16 décembre 2022. Votre sapin est prêt, les enfants hurlent, les cadeaux pas tout à fait achetés, mais grosso modo on y est presque. Et pourtant, vous n'en pouvez déjà plus. Ces guirlandes, ces pantins accrochés aux fenêtres, cet esprit de Noël, loin de vous calmer, vous agace et révèle même loger au fond de vous des accès de violence. Bizarre ? Pas tant que ça, car les fêtes de Noël n'ont pas toujours été synonymes de convivialité. Alors pourquoi croire encore qu'il n'est question que d'amour et de paix ?
Le Père Noël a été pendu hier après-midi aux grilles de la cathédrale de Dijon et brûlé publiquement sur le parvis. Cette exécution spectaculaire s'est déroulée en présence de plusieurs centaines d'enfants des patronages. Elle avait été décidée avec l'accord du clergé qui avait condamné le Père Noël comme usurpateur et hérétique. Il avait été accusé de paganiser la fête de Noël et de s'y être installé comme un coucou en prenant une place de plus en plus grande. Dimanche, à 3 heures de l'après-midi, le malheureux bonhomme à barbe blanche a payé, comme beaucoup d'innocents, une faute dont s'étaient rendus coupables ceux qui applaudiront à son exécution. Le feu a embrasé sa barbe et il s'est évanoui dans la fumée.
Bonjour Charles Stepanoff.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes auteur de Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination, paru aux éditions La Découverte, L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage. Vous avez été pris de l'essai Arte France Culture cette année. Oui, c'est paru aussi aux éditions La Découverte. Et vous avez écrit cet article « Père Noël et Black Friday, le retour de la furie hivernale » dans la revue « La vie des idées ». C'est paru il y a un an, juste avant, on a entendu, juste avant ce chant de Noël habituel, on a entendu un extrait du Père Noël supplicié. C'est un texte de Claude Lévi-Strauss écrit en 1952. Alors pourquoi ce Père Noël supplicié? Que nous raconte Claude Lévi-Strauss dans ce texte?
En fait, Claude Lévi-Strauss prend pour point de départ cet événement qui avait fait pas mal de bruit. Il y avait eu des polémiques dans la presse locale, mais aussi dans la presse nationale, sur une exécution publique au bûcher du Père Noël devant les enfants, devant une centaine d'enfants, en 1951, à la suite de quoi la municipalité avait décidé de faire une résurrection du Père Noël. Et donc, il était ressuscité quelques jours après à l'hôtel de ville. Donc, c'était la confrontation entre la cathédrale et l'hôtel de ville. Et Lévi-Strauss prend l'occasion de cette discussion à propos du Père Noël pour essayer de comprendre quels sont les enjeux de la diffusion de ce nouveau personnage, parce qu'il faut bien comprendre que c'est nouveau dans une grande partie de la France, le Père Noël des années 1950, et réfléchir aux liens que nous tissons avec les enfants, avec l'abondance et aussi avec les morts. Donc il va mener une comparaison anthropologique extrêmement brillante qui va jusqu'au Kachina chez les Pueblos en Amérique du Nord, qui va vers les Saturnales de l'Antiquité. Il tisse des liens pour essayer de mettre en évidence des continuités dans nos rapports à la mort et des ruptures.
Alors quand même, il faut revenir sur cet événement qui s'est produit donc à Dijon en 1951. Alors qu'est-ce qui a été brûlé en fait? Donc c'est véritablement la figure du Père Noël. Pourquoi d'abord? Et pourquoi il a fallu mettre en scène une résurrection du Père Noël? Ça semble complètement absurde.
Alors, il y a des sources différentes en fait sur cet événement. Lévi-Strauss indique que c'est le clergé qui l'a décidé. Dans une autre source, on voit que c'est une association chrétienne, mais d'aide aux pauvres, et que sont les pauvres, les miséreux, qui étaient choqués en fait par l'embourgeoisement de la fête de Noël,
par sa récupération
par les commerçants, parce que comme pour Halloween. D'autres nouveaux néo-rituels récents. C'est un modèle américain qui arrive en France par le biais du plan Marshall. Plan Marshall, les Américains aident à la reconstruction de la France, mais apportent aussi des objets culturels, des pratiques, des traditions, le cinéma, le modèle de l'American Way of Life, et un certain culte de l'abondance et des marchandises qui s'incarnent dans la distribution de cadeaux par le Père Noël. Or, ces cadeaux, ça se présente comme des dons, mais derrière, évidemment, ce sont des marchandises. Et ce qu'il y a de nouveau dans ce tournant du Noël des années 1950, c'est qu'avant la guerre, les marchandises étaient assez peu présentes. Dans les foyers, qu'il s'agisse des décorations de Noël qui étaient faites par des branchages qu'on trouvait dans l'environnement immédiat, des pommes qui étaient suspendues au branchage, et puis les cadeaux eux-mêmes étaient résultat de l'autoproduction domestique. Et nous voyons les commerçants répandre un nouveau modèle fondé sur l'argent, sur le commerce et sur la marchandise. Donc on a là un passage d'une économie du don à une économie de la marchandise, avec des marchandises qui se déguisent sous une économie du don, puisqu'on présente ça aux enfants comme un don généreux, gratuit, et en fait, c'est de la vente derrière. Donc, voilà, du point de vue d'associations caritatives et de l'Église, il y a une supercherie, et il y a aussi, évidemment, une désacralisation de la fête, qui, pour l'Église, est la fête de la nativité du Christ, du Sauveur. Et on voit la figure de la crèche et du Sauveur remplacée par ce gros bonhomme malpropre, joyeux, américain, qui fait figure d'imposteur pour l'Église.
Mais alors finalement, les critiques qu'on entend, à savoir l'américanisation, plus aussi la société de consommation, le fait qu'il s'agisse de fêtes commerciales, ce sont quand même deux arguments qu'on entend encore aujourd'hui. Alors peut-être encore à propos de Noël, à moins qu'on ait accepté ça, mais aussi à propos d'une fête, par exemple, comme Halloween. Donc ça veut dire que cet argument-là, ces deux arguments-là, ils reviennent tout le temps dès qu'on a une fête qui prend de l'ampleur.
Oui, tout à fait. Et ils ne sont pas faux. Hein. C'est bien certain que ça correspond au début des Trente Glorieuses, à un nouveau rapport à la marchandise, une espèce de culte euphorique de l'abondance qui est en rupture avec les traditions, on va dire, paysannes, d'autarcie de l'avant-guerre. Donc il y a une véritable rupture. L'apport de Lévi-Strauss, c'est de dire s'il y a une diffusion qui marche, s'il y a un apport américain qui prend racine chez nous dans la vieille Europe, c'est que ça correspond à une attente.
Une demande.
Ça répond à une exigence, en fait. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas, dont on a ressenti le besoin dans cette après-guerre. Et toute son enquête va tâcher de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est ? À quoi répond ce nouveau folklore du Père Noël ?
Donc ça veut dire que pour Claude Lévi-Strauss, l'explication du modèle diffusionniste, à savoir de l'influence américaine ou de la diffusion du modèle consumériste, ce ne sont pas des explications suffisantes. On ne peut pas se contenter de ces arguments-là.
Voilà, ça n'est pas suffisant, parce que pour qu'une diffusion fonctionne, il faut qu'elle réponde à une attente. Et en fait, c'est plutôt une recomposition. Il va nous montrer quelque chose, c'est une notion qu'il développe après dans un autre texte, La pensée sauvage, la notion de bricolage. Et là, il n'emploie pas ce terme-là dans l'article Père Noël supplicié, mais on voit tout à fait à l'œuvre.
Est-ce que La pensée sauvage, ça date de quand ?
Oh, je dirais une bêtise des années 60. Mais...
Donc oui, parce que là, le texte est en 52. Donc effectivement, la pensée sauvage, c'est quelque chose qui peut reprendre par la suite. Mais dans le Père Noël supplicié, on n'a pas encore... C'est juste la préfiguration de cette pensée-là.
C'est ça, oui. Donc d'une forme de bricolage, puisque une tradition ne naît pas de rien. Le sapin de Noël, par exemple, ne naît pas de rien. Le Père Noël non plus. Il y a un bricolage, une reconfiguration de tas d'éléments qui étaient présents en Europe. Ça revient par les États-Unis, mais c'était européen à l'origine. C'est Saint-Nicolas, donc c'est des traditions européennes qui font un détour par l'Amérique, qui se recomposent, qui reviennent chez nous et qui prennent racine à partir... le sapin de Noël, par exemple, recompose la bûche de Noël, recompose des branchages de gui de houx qui étaient présents dans toutes les maisons, dans les campagnes françaises. et y ajoute la lumière. Donc c'est la lumière qui était dans la bûche, hein, ce qui est dans le rituel de la bûche de Noël, de ce grand feu dans la cheminée qui doit durer 3 jours. Donc toutes ces traditions déjà là, le feuillage persistant, la lumière, se recompose hein, sous une autre forme avec le sapin de Noël.
Comment va procéder Claude Lévi-Strauss pour répondre à cette question qui lui semble la plus intéressante, à savoir à quoi répond Noël, à quelle exigence, à quelle demande, à quel appel en fait d'une société va répondre cette fête et l'ampleur qu'elle prend?
Alors déjà, il montre que dans les traditions européennes, le rapport aux enfants est bien souvent un rapport aux morts. Alors ça, c'est bien surprenant déjà, quand on entend ça, on se dit pourquoi il y aurait les morts dans la fête de Noël, c'est pas la Toussaint. Et en fait, par une série de comparaisons, il montre qu'il y avait dans les traditions européennes des quêtes d'enfants. Les enfants recevaient des cadeaux à la Saint-Sylvestre ou à la Saint-Nicolas, mais ça passait par des quêtes. C'est-à-dire que les enfants allaient de maison en maison et demandaient des sucreries, des bonbons, des œufs, de la nourriture. Ça, c'est dans toute l'Europe. Ils l'exigeaient, ils menaçaient, et on était obligé de les nourrir, sinon on offensait les morts. Dans d'autres traditions, c'est complètement explicite. Ça l'est tout à fait dans Halloween. Et alors, ça qui est surprenant et qui m'a
avec
amusé,
des enfants
c'est
qui
de
font
voir
la quête.
Que, en fait, des traditions qui, pour Lévi-Strauss, dans les années 50, étaient vieilles et oubliées, à savoir des quêtes d'enfants qui représentent les morts, aujourd'hui, elles sont complètement actuelles, avec Halloween, où, de façon totalement évidente et très claire, explicite, les enfants sont déguisés en morts. Donc là, il est incontestable qu'ils représentent les âmes de nos ancêtres et que quand nous leur faisons des offrandes, nous acceptons... nous nous conformons à leurs exigences, ils nous menacent, un bonbon ou un sort. Voilà, on est dans quelque chose de violent, de transactionnel, de menaçant, même si c'est symbolique. Eh bien, la logique du rapport aux morts à travers l'enfant, elle est à nouveau présente. Or, pour Lévi-Strauss, on revient dans les années 50, ça c'est disparu. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que le Père Noël distribue aux enfants lui-même, il fait lui-même le tour des enfants, sans qu'ils aient à exiger quoi que ce soit, sans qu'ils aient à faire des quêtes, et il va leur donner des cadeaux. Lui-même, il est un vieillard bienveillant, donc ça, pour Lévi-Strauss, c'est l'image d'un nouveau rapport aux morts. Il y a quelque chose de complètement différent.
Mais où sont les morts dans ce dispositif-là, entre un vieux sympa, bonhomme, bienveillant, qui distribue des cadeaux et des enfants?
Eh bien, les enfants sont toujours les morts. Parce que dans les sociétés humaines...
Mais ils ont l'air gentils, ils ne ressemblent pas à des morts.
Voilà, simplement on a camouflé un petit peu, en tout cas... On a mis de côté cet aspect funèbre, en tout cas dans les années 50, hein, mais je répète, ça revient dans les années 90 avec Halloween. Donc, il y a une sorte d'affaiblissement de cette figure de l'enfant et du mort, un adoucissement de la relation, du don, puisque les enfants n'ont plus besoin d'exiger. Il n'y a plus toute cette furie aussi des enfants et des jeunes qu'il y avait dans les fêtes de Noël, les fêtes médiévales, avec l'abbé de Déraison, l'abbé de Liesse, et des figures de transgression. Les enfants, je disais, ils faisaient des quêtes. Parfois, ils allaient piller, en fait, les maisons et les boutiques. Donc, toute cette violence, apparemment, les années 50, elle a disparu. Et donc, Lévi-Strauss nous dit, ça veut dire que notre rapport à la mort s'est adouci. Nous sommes quittes avec la mort, d'une certaine manière. Nous n'avons plus besoin de mettre en scène une subversion violente, de laisser la mort envahir notre quotidien à certains moments de l'année. Donc pour lui, c'est la manifestation d'un assagissement de nos sociétés et d'une forme de gentillesse sans contrôle, il dit, de générosité sans arrière-pensée qui se met en place. Et avec le recul, on se dit, oui, c'est ça un peu l'idéal, peut-être fictif, mais idéal des Trente Glorieuses.
Mais justement, ça correspond aussi, c'est ce que j'allais vous dire, à un certain contexte social et politique. C'est un moment d'apaisement parce que c'est un moment de prospérité des Trente Glorieuses, justement. Alors que quand on va brûler le Père Noël dans ces années 50-là, c'est presque comme si on voulait renouer avec un contexte beaucoup plus rude d'affrontement entre des classes.
Alors, c'est un dernier feu, en fait, de cette violence de décembre, cette mise à mort par le bûcher du Père Noël. Il n'y en a pas eu d'autres exemples. Hein. C'est un essai de l'Église à Dijon, puis ça tourne mal, ça ne fait pas du tout l'effet souhaité.
Oui, bah, en même temps, c'était bizarre de penser que ça allait convaincre des gens.
Oui, peut-être ça fait plutôt archaïque, l'Église qui remet en scène des bûchers. Donc ça ne prend pas. Et Lévi-Strauss montre qu'il y a un côté archaïque parce que, sans que l'Église s'en rende compte, ça représente la mise à mort du roi des Saturnales dans la Rome antique. Finalement, le fait que le Père Noël soit brûlé, ça rejoint un rituel extrêmement ancien qui est que le roi des fous de la période des Saturnales, de cette liberté de décembre, du 17 décembre au 23 décembre à l'époque romaine, eh bien ce roi était tué à la fin de cette période. Et on revenait dans une période d'ordre. On mettait fin au désordre en tuant le représentant du désordre. Donc pour Lévi-Strauss, le bûcher du Père Noël, c'est curieusement dans la continuité de ça. Alors là, je dois ajouter immédiatement, Lévi-Strauss se trompe là-dessus. On l'a montré récemment. Il se basait sur spéculations de l'anthropologue Sir James Fraser, qui a bâti tout un modèle sur le roi supplicié, le roi tué dans énormément de sociétés du monde.
D'où le titre, le Père Noël supplicié d'ailleurs.
Voilà, oui. Sauf que dans l'Antiquité romaine, ça a été montré par une étude en 2015, en fait ce sont les érudits antiquisants à la fin du 19e siècle avec Fraser qui ont monté en épingle une petite allusion dans un texte extrêmement tardif, en fait, du Xe siècle. On est très loin après l'Antiquité romaine païenne. Et en gros, c'est une invention, cette mise à mort du roi des Saturnales.
Donc toute l'explication là, de Lévi-Strauss tombe, s'effondre.
C'est un aspect de son explication. C'est juste c'est une espèce de la cerise sur le gâteau, mais le gâteau est quand même très bien sans cette cerise.
Un mythe, c'est par exemple une histoire qui essayera d'expliquer à la fois pourquoi il se trouve que le soleil est à bonne distance de la Terre, alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin et ce serait la nuit éternelle, ou beaucoup plus près et le monde entrerait en conflagration. Et pourquoi un homme doit aller chercher son épouse à bonne distance, pas trop loin, parce qu'alors ça pourrait être une étrangère et une ennemie et une sorcière, pas trop près, parce qu'il se rendrait coupable du péché d'inceste. Et pourquoi également les saisons et les jours ne se succèdent pas à toute vitesse, mais selon un rythme régulier. Enfin, pourquoi il existe une certaine bonne mesure, à la fois dans l'ordre cosmologique, dans l'ordre météorologique, dans l'ordre saisonnier et dans l'ordre social. Nous, avec nos préoccupations scientifiques et qui avons appris avec Descartes qu'il faut diviser les difficultés en autant de parties qu'il est requis pour les résoudre, nous considérions que ce sont des problèmes complètement différents et qui doivent être posés, chacun dans sa perspective propre et résolus dans ses propres termes. Le mythe, au contraire, essaye de mettre tout ça ensemble et de trouver une réponse unique à des problèmes différents.
Claude Lévi-Strauss, interviewé par Bernard Pivot le 4 mai 1984 et qui donne sa définition du mythe. Et il dit « Le mythe, c'est un tout ensemble qui donne une réponse unique. » Est-ce que une des fonctions des fêtes de Noël et l'ampleur que prend le Père Noël, c'est effectivement celle du mythe, en fait, de vouloir donner une explication unique. Mais alors la question, à quoi ?
Alors oui, certainement qu'il y a pendant la période de Noël une rencontre entre le temps du quotidien et le temps cosmique du mythe. Il y a une forme de retour aux origines, surtout quand on voit dans la façon dont étaient célébrés les Noëls anciens dans les traditions paysannes. Ça nous rapproche d'un moment originel, dans lequel les humains, les astres, les animaux fusionnent, dans la tradition chrétienne, autour de la naissance du Christ. Pourquoi ça se joue à ce moment-là ? C'est parce que c'est un moment critique de l'année, le solstice d'hiver. Nous avons vu, nous voyons encore, les jours décliner, comme si le soleil était en train de tomber malade, de mourir. Et va-t-il survivre ? Le soleil va-t-il décliner jusqu'à ce que nous soyons environnés d'une nuit éternelle ? Il y a ce moment critique de basculement et heureusement, vers le 21 décembre, le soleil va de nouveau reprendre sa croissance et nous mener vers l'été. Moment de basculement qui concerne pas uniquement les humains, évidemment, qui concerne le cosmos, les astres, mais aussi la végétation, mais aussi les animaux. Et c'est pour ça que et la végétation et les animaux sont impliqués dans la célébration de Noël dans les traditions paysannes. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces légendes qui étaient connues dans toute la France jusqu'au milieu du XXe siècle sur le fait que les animaux de ferme parlent pendant la nuit de Noël, quand les humains sont absents. Voilà, il y a plein de légendes là-dessus.
Je ne les connaissais pas.
Du Pays Basque à l'Alsace, en passant par la Bretagne, partout, les gens étaient convaincus que les animaux, les chevaux, les vaches, les cochons discutent pendant la nuit de Noël et révèlent des choses. Donc il y a plein de gens qui essayent d'aller dormir à ce moment-là dans l'étable pour écouter les révélations sur quand va mourir le maître, où est-ce qu'un trésor est caché. Et le paysan qui tente de surprendre la discussion des animaux, en fait, il enfreint une loi et il est puni, il devient sourd-muet ou bien il meurt. Donc, c'est pas possible. Mais ça nous rappelle en fait ce temps du mythe, parce qu'une autre définition du mythe chez Lévi-Strauss, c'est ce temps où les humains et les animaux parlaient un même langage, en parlant des Indiens d'Amazonie ou d'Amérique du Nord. Mais on voit que ça vaut aussi chez nous, puisque ce temps du mythe dans lequel nous parlions un même langage avec les animaux, eh bien, il ressurgit à chaque nuit de Noël. Dans beaucoup de rituels de célébration de la messe de minuit, les animaux sont impliqués. Il y a des lâchers de petits oiseaux, de roitelets, de rouges-gorges, par le prêtre pendant la messe de minuit en Provence, parce que dans la mythologie paysanne, ces oiseaux ont participé à la nativité, ils étaient présents. On les voit quelquefois, le roitelet ou le rouge-gorge, présents dans des tableaux du Moyen-Âge ou de la Renaissance. En fait, c'est présent dans les mythologies paysannes. Et c'est rejouer cette naissance cosmique qui implique les animaux et les plantes, elle est rejouée au moment de minuit, à Noël. Il y a des agneaux qui participent dans beaucoup de célébrations. C'est le Noël des bergers, où il y avait quelquefois de la violence, des émeutes dans les églises. Hein. C'est pas du tout ce qu'on peut imaginer maintenant. Et ça implique en fait l'ensemble du cosmos. Les gens plantaient aussi des branches dans les maisons à ce moment-là. Et on dit le pommier va fleurir la nuit de Noël. Donc on est dans effectivement un moment où le temps du quotidien rejoint le temps du mythe.
Et est-ce qu'il y a une dimension légendaire aussi d'un récit qu'on peut se transmettre ? C'est-à-dire que le moment de Noël, vous le disiez, c'est un moment mythique d'une certaine manière parce qu'il y a le même langage, mais aussi est-ce qu'il y a un langage commun autour d'histoires autres que celles religieuses, par exemple ?
Alors, c'est dans la tradition paysanne, c'est pas séparé, le religieux, le non-religieux, le profane, le sacré s'entremêlent complètement. Donc, il y a des aspects...
Donc, c'est toujours la naissance du Christ, c'est toujours ce récit-là qu'on fait, c'est pas forcément un autre récit qui est mis en avant.
Non, mais au récit officiel transmis par l'Église, s'agrège une quantité énorme d'autres récits sur l'origine des choses. Pourquoi, par exemple, l'aubépine a une mauvaise odeur ? Vous prenez un rameau d'aubépine, c'est très joli, c'est tout blanc, ça fait une nuée de petites fleurs blanches et roses. Et puis vous approchez votre nez, et en fait, ça sent mauvais. Alors, les paysans se sont demandé pourquoi. En fait, il y a un mythe qui l'explique et qui est en rapport avec Noël. C'est que la Sainte Vierge, quand elle change l'enfant Jésus, la première fois, elle va déposer les langes sur une aubépine. Et depuis, l'aubépine est à la fois sacrée, parce qu'elle a reçu les langes. Ensuite, elle sert à faire la couronne d'épines. Mais elle a reçu les langes, donc elle garde une mauvaise odeur. Donc, vous voyez, c'est un petit exemple.
Oui.
Il y a un ensemble de réalités naturelles.
De micro-récits qui vont entourer ce moment-là.
Voilà, c'est des récits étiologiques, on appelle ça, qui nous expliquent la cause par laquelle l'ordre cosmique, l'ordre naturel, l'ordre social, tel que vient de le dire Lévi-Strauss, est tel qu'il est. Mmh. Et c'est très souvent lié effectivement à ce moment de cosmogénèse de Noël.
Mais quand on revient, si on revient en fait au texte de Lévi-Strauss, enfin en tout cas au Père Noël brûlé en 51, ce qui est en cause en fait, c'est surtout la figure du Père Noël en fait, de cette personne qui a presque pris la place d'une divinité, qui vient en fait concentrer en une seule réponse, alors peut-être comme le mythe, mais qui vient rassembler un ensemble de récits et presque le réduire, le standardiser à peu de choses. Alors on peut se poser la question de quel rôle joue cette figure du Père Noël. Est-ce que justement, c'est devenu un personnage mythique, c'est devenu une divinité, c'est devenu un héros légendaire? C'est qui pour nous, en fait, le Père Noël?
Alors, il est vrai que le Père Noël n'apporte pas de mythe. Très peu, il n'y a pas d'histoire.
C'est le moment de Noël qui est
mythique. On ne sait pas, il n'y a pas de récit. On ne sait pas où est-ce qu'il est né, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait quand il était enfant, qu'est-ce qu'il a créé dans notre monde. On sait vaguement qu'il a des reines, mais pour Lévi-Strauss, il n'y a pas de mythe du Père Noël. C'est un personnage de rite et non pas de mythe. Donc il le décrit comme une divinité, si on veut, qui fait l'objet d'un culte et en fait d'un rite de passage. Un rite de passage qui va séparer les gens parmi nous qui croient à l'existence du Père Noël et les gens qui n'y croient pas. Un rite de passage parce qu'il y a un moment dans la vie de chacun où tout d'un coup on ne croit plus au Père Noël. Et donc il y a la période.
C'est souvent un moment terrible d'ailleurs.
Oui, voilà, traumatisant. C'est tout à fait comme doit l'être un rite de passage, un rite d'initiation. Les enfants apprennent à un certain âge que, en fait, le Père Noël, non, c'est les parents. En fait, le don. Derrière ça, il y a un aspect aussi économique. C'est toute une réalité du monde que l'on apprend dans ce rite de passage. Ce qu'on croyait un don généreux, gratuit, comme dit Lévi-Strauss, en fait, c'est une marchandise. En fait, ça a été acheté par les parents dans des magasins. Donc, ce que découvre l'enfant, c'est que derrière l'économie du don, à laquelle il croyait, se cache une économie marchande.
Donc c'est ça qui presque dédivinise le Père Noël. Il y a quelque chose qui tombe.
C'est un rite de passage efficace en soi, et qui est juste, qui fonctionne efficacement dans notre formation en tant qu'individu appartenant et devant vivre dans un contexte capitaliste. Donc là, c'est efficace.
Donc c'est un rite de passage capitaliste.
Tout à fait, oui.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que les parents, d'une certaine manière, y croient. Ils entretiennent à fond cette croyance-là. C'est-à-dire que peut-être que moi, en tant que mère, je sais très bien que le Père Noël n'existe pas, mais je vais mettre en place tout un ensemble de rituels, le calendrier de l'Avent, le sapin de Noël, on va pouvoir y revenir, Charles Stepanov, les guirlandes, les décorations, les chants de Noël, qui vont faire que moi aussi, d'une certaine manière, je vais donner de la consistance à cette croyance et que je vais adhérer à cette croyance sans même y croire.
Alors là, on peut distinguer, disons que le fait de célébrer Noël n'implique pas nécessairement de faire ce passage par le Père Noël, qui, on l'a bien compris, est un ajout des années 1950, et l'histoire de Noël est beaucoup plus longue, et il y a cet aspect cosmique lié au cycle du soleil, au solstice, à la végétation, au sapin, le festin familial, tous ces aspects-là sont indépendants du Père Noël. En revanche, sur le Père Noël lui-même, oui, il y a donc ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, et, ajoute Lévi-Strauss, et qui font en sorte que les autres y croient. Donc c'est ce qui est très important, une fois qu'on a cessé d'y croire, de faire en sorte que les autres adhèrent à cette croyance, au moins pendant quelques années. Mais c'est comme ça que fonctionne un rite de passage. Il faut que ceux qui sont passés à travers ce rite, eh bien, le fassent subir aux autres à leur suite.
Vous voulez dire que le Père Noël ne fonctionne que parce qu'on y croit et que l'on ne va plus y croire, en fait, qu'on ne le fait fonctionner que pour qu'il ne fonctionne plus à un moment donné ?
Oui, c'est ça, parce que de toute façon, il faut bien que les parents aient un moment cessé d'y croire pour qu'ils aillent au magasin acheter les cadeaux. Si les parents continuaient de croire au Père Noël, ils attendraient que les cadeaux viennent tout seuls et tout le monde serait très déçu.
Donc finalement, on retombe quand même sur l'explication du modèle américain et de consommation capitaliste. En fait, finalement, ce modèle-là explicatif qui était un petit peu limité pour Lévi-Strauss reprend quand même un peu de l'ampleur à ce moment-là, si c'est un rite de passage capitaliste.
C'est mon sentiment. Avec 70 ans de recul, on voit qu'il y a des aspects très éclairants dans l'analyse de Lévi-Strauss, mais il ne met peut-être pas suffisamment en évidence qu'il y a effectivement de réellement neuf dans ce nouveau Noël et son lien avec la société de consommation. Parce qu'on est au tout début, en 1952, mais avec le recul, on voit que cette fête, cette nouvelle façon de célébrer Noël est un culte de la consommation qui a comme soubassement une certaine vision des ressources, de la nature, de la planète. Tous ces enjeux-là nous apparaissent beaucoup plus clairement maintenant avec le recul et on voit à quel point une fête de Noël consumériste est aussi une mise en scène de ressources illimitées d'une planète dans laquelle on peut puiser indéfiniment. L'arrière-plan écologique de ce Noël des Trente Glorieuses nous apparaît maintenant avec sa part de violence écologique. Et c'est pour ça qu'il y a des remises en cause récentes de cet aspect consumériste de Noël, y compris dans les jeunes générations, chez les jeunes militants écologistes du mouvement Extinction Rébellion. Voilà, qui vont dire à leurs parents, en fait, on n'en veut plus ce Noël-là.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, joli sapin comme ils sont doux. Et tes bonbons et tes joujoux, toi que Noël planta chez nous, tout brillant de lumière, mon beau sapin, tes vers sommets et leur
Noël, il est bon de tout savoir sur le sapin. Il est des maisons où le Père Noël ne peut l'apporter et l'on est obligé de faire tout soi-même. C'est un peu notre cas et nous sommes allés nous documenter en premier au marché aux fleurs de la cité à Paris.
Le sapin est aussi 600 francs, madame. Il est très beau, voyez-vous, bien étagé.
A-t-il augmenté depuis l'année dernière?
Non, madame, non, pas augmenté. D'ailleurs, c'est une culture spéciale.
On n'en découpe pas dans les forêts?
Ah, pour cela, madame, pour cela. D'ailleurs, vous savez, le marché de la cité est réputé pour ça parce qu'ils sont toujours très, très beaux.
Comment doit-on choisir, avec ou sans racines?
Bah, oh, ça n'a aucune importance, étant donné que les appartements sont très chauffés, alors il n'est pas possible souvent de les replanter.
On m'a dit, madame, que les sapins étaient de culture, mais on ne les cultive tout de même pas aux environs de Paris.
Eh bien, mon Dieu, les plus proches cultures sont dans la Meuse. Voyez-vous, on tâche de les cultiver le plus près possible parce que les frais de transport coûtent cher.
C'est une coutume récente qui a beaucoup pris, en somme, le sapin de Noël.
Récente, oui, depuis quelques années, ça a pris de l'extension. Mais enfin, c'est pas tellement récent, je crois qu'on a toujours fêté Noël, quand même.
Peut-être pas toujours avec un sapin.
Peut-être pas toujours avec un sapin, oui, effectivement.
Merci, madame. Non.
C'était en 1960, la vente de sapins de Noël à Noël s'est répandue. Néanmoins, cette commerçante dit on a toujours fêté Noël. Alors peut-être pas avec un sapin justement, c'est toute la question. Est-ce que le sapin de Noël, c'est comme la figure du Père Noël, Charles Stepanov, c'est devenu un incontournable mais qui finalement a été créé assez récemment?
Et oui, c'est vrai que c'est assez fascinant de se dire que ces traditions qui nous semblent par un certain aspect tout à fait archaïques, très anciennes, remontées peut-être à l'Antiquité, en fait, quand on y regarde de près, elles se diffusent à une vitesse fulgurante à travers l'Europe en quelques décennies. Alors le Père Noël, c'est vraiment très très rapide. Le sapin de Noël, c'est plus long, mais ça se diffuse à partir du 19e siècle. Par l'aristocratie, par la bourgeoisie. Et puis là, on entend, dans les années 1960, les gens se souviennent que, effectivement, c'est assez récent. On n'a pas connu des Noëls avec des sapins de Noël depuis toujours. Il y a des textes. Alors, dans les années 30, on proteste à Rome contre le sapin de Noël. On s'y oppose. Dans les années 50-60, dans le sud de la France, les gens disent : mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est complètement étranger. Nous, on a la crèche, mais on n'a pas le sapin de Noël.
Et pour le Père Noël, comment il a été créé? Et de la même manière, de question qui va aussi avec Charles Stepanov, pourquoi tout à coup le sapin est devenu aussi un emblème?
Alors c'est très intriguant. Et là, il est nécessaire de prendre du recul, en fait, de reconstituer l'ensemble de l'année paysanne, l'année traditionnelle en Europe, avec ses différents personnages qui viennent de l'au-delà et les différents arbres qui font un lien avec l'au-delà. La première mention du sapin de Noël qu'on ait en France, c'est dans les archives de la ville de Célestat. En 1521, dans les comptes de la ville, on voit qu'il est indiqué qu'il va falloir payer des gardiens pour les sapins de Noël, parce que des gens venaient les voler. Et alors, comment est appelé le sapin de Noël dans cette archive? Die Meien, en allemand, c'est-à-dire les mets. Alors, c'est très curieux, les arbres de mets. Pourquoi on appelle ça des arbres de mets? C'est parce qu'à l'époque, en Europe, tout le monde savait ce que c'était qu'un arbre de mets, et personne ne savait ce que c'était qu'un sapin de Noël.
C'est quoi un arbre de mets?
Ce qui s'est passé, c'est que vous avez un remplacement de l'arbre de mets par le sapin de Noël dans toute l'Europe entre le 19e et le 20e siècle. Alors l'arbre de mets, c'est un arbre que les communautés villageoises vont chercher dans la forêt. C'est les jeunes gens, souvent, jeunes garçons, jeunes filles. Ils vont dans la forêt la nuit, ils font la fête, c'est une bombance. Il y a des aspects orgiaques dans certaines descriptions. C'est un moment de folie. À la fin avril, début du mois de mai, on va chercher un arbre qui représente la renaissance de la végétation. On le ramène, et on en prend un gros, hein, donc il faut une vingtaine, une trentaine de gars pour le porter, et on va le planter au milieu du village. Et il y a des célébrations, on tourne autour, c'est un mat de cocagne. Et bien souvent, cet arbre qui représente la régénération de la nature, qui va en fait apporter de la fertilité aux humains, cet arbre, il est accompagné par un personnage, le Père Mai, on l'appelle en France jusqu'au 19e siècle. On l'appelle le Feuillu en Suisse. En Suisse, ça existe encore. En Angleterre, Jack in the Green. En Roumanie, il est célébré également. Babalouda, il s'appelle. C'est un personnage recouvert de branchages, un homme arbre qui a un comportement tout à fait indécent, souvent, c'est un personnage phallique, qui vient vraiment littéralement représenter l'esprit de la végétation et féconder l'ensemble des humains. Et ça, c'est vraiment le rituel européen pratiqué dans toute l'Europe. C'est la communauté villageoise, c'est l'ancêtre, je signale au passage, de notre arbre de la liberté. Hein, il y a une continuité directe et démontrée par les historiens entre cet arbre de mai et l'arbre de la liberté. À cette différence près, que l'arbre de mai, il est coupé chaque année dans la forêt et il est rapporté dans le village. Et en fait, il représente une relation d'échange, de réciprocité, de régénération de la communauté humaine dans la forêt. Alors que l'arbre de la liberté, c'est un arbre étatique, inventé par la bourgeoisie parisienne, il s'enracine. Là, on a une grosse différence. Donc, je reviens au sapin de Noël. En fait, c'est symétrique absolue, le sapin de Noël, parce que c'est un arbre d'hiver. C'est un arbre de l'intérieur, alors que l'arbre de mai...
On ne le met pas dans le village, sur la place publique, voilà. Comme l'arbre de mai.
Il peut être dans le village, dans certaines municipalités, mais principalement, c'est un arbre de l'intérieur de salon. C'est un arbre associé à une sociabilité, en fait, bourgeoise, de l'intime, de la famille, de la famille nucléaire, tout à fait opposé à l'arbre communautaire, collectif, paysan, qu'est l'arbre de mai. De plus en plus, évidemment, en réalité, l'arbre de Noël, c'est un arbre marchandise qui est acheté, à la différence de l'arbre de mai qui est vraiment prélevé dans la forêt. Donc on a une série de contrastes et une correspondance. À mesure que l'arbre de mai disparaît, décline à travers l'Europe au 19e et au 20e siècle, le sapin de Noël s'impose et le remplace. Ce sont deux arbres médiateurs. Hein. L'arbre de Noël également représente une médiation avec la forêt. Il représente effectivement un surgissement du monde sauvage dans nos salons.
Mais c'est pas une manière de les domestiquer, justement, parce que il y a toujours cette idée de l'arbre coupé entre l'arbre de mai et l'arbre de Noël. Oui. Mais le fait de l'enfermer à l'intérieur, de manière individuelle, individualiste, dans l'espace domestique, c'est pas la même signification qu'effectivement de se rassembler autour d'un arbre de la fécondité au printemps.
C'est ça. Je pense que dans les deux cas, il y a non pas une domestication, mais un apprivoisement. Mm-hmm. On pourrait le mettre en lien avec les traditions des peuples de chasseurs-cueilleurs qui vont chercher des animaux sauvages dans la forêt et les apprivoiser, parce que dans les deux cas, on a une figure qui fait l'objet d'un transfert entre le monde non humain et le monde humain. Ça démontre que l'humanité a besoin d'une altérité non humaine pour se régénérer. Elle a besoin d'un moment d'ensauvagement. Et ça, cet ensauvagement, il est malgré tout encore bien réalisé avec les odeurs du sapin de Noël, toutes les aiguilles, toute la saleté, en fait, qui l'amène à un côté forestier au cœur de l'espace le plus domestique. Mais ça se joue donc à un autre niveau social. L'arbre de mai, c'est un niveau communautaire villageois, alors que le sapin de Noël, c'est un niveau bourgeois. Et c'est effectivement la bourgeoisie et l'aristocratie qui le transmettent à travers l'Europe au 19e, 20e siècle.
Et quand on y pense, cet arbre de Noël, en fait, qu'on achète, d'ailleurs, on entend bien dans cette archive, le prix, la culture, ça devient un espace de négociation, de marchandises. Cet arbre qu'on a chez nous, on ne l'interroge jamais. C'est-à-dire que pour moi, qui ai toujours grandi avec un arbre de Noël, c'est quand même bizarre de se dire qu'on a un arbre mort, coupé au milieu du salon, autour duquel on va se réunir, qui en plus va être très haut, très grand, mais qui en tout cas a une sorte comme ça de figure d'élévation. Il y a quelque chose de surprenant, mais qu'on n'interroge jamais véritablement.
Alors, il faut se rassurer, c'est normal. Les rituels, ça parle par des images, des gestes, et pas tellement par la parole. Et c'est souvent là que, c'est pour ça qu'existent des anthropologues, pour essayer de trouver des explications, de verbaliser en fait ce qui est implicite, ce qui est non dit. Ce qui compte pour le rituel, c'est qu'il transmette des émotions. Tant qu'il transmet des émotions, et souvent c'est encore mieux si elles sont implicites et si on n'arrive pas à les expliquer, alors le rituel est efficace et on aura envie de le transmettre. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que le sapin, il est nécessaire pour le comprendre, de le comparer à d'autres formes d'arbres médiateurs, l'arbre de mai dont je parlais, mais aussi des arbres médiateurs d'autres sociétés. Donc moi, j'ai travaillé en Sibérie, et donc je suis très frappé de voir les correspondances entre des arbres chamaniques, qui sont des arbres qu'on va abattre dans la forêt, amener à l'intérieur de la maison, la tente. On le place en plein milieu au niveau du foyer. Il dépasse à travers le trou à fumée de la tente, et c'est un arbre cosmique. Il fait le lien entre le ciel, le monde des humains et le monde inférieur. Il est décoré, il reçoit des offrandes, des pelages d'animaux à fourrure, des rubans, des fruits. Et là, on voit que c'est la même chose qu'on fait avec le sapin de Noël. On le recouvre d'ornements, on l'honore, on lui fait des offrandes, des pommes qui sont des boules en verre maintenant, bien souvent. On peut mettre des petits gâteaux, on célèbre, on festoie autour de lui. Donc, on a un parallèle tout à fait qui fonctionne. Et on a cette verticalité, cet aspect cosmique. On le voit bien avec l'étoile qui est posée sur le sommet du sapin de Noël, qui fait le lien avec le ciel. Et puis, on a ce chemin, en fait, cet axe des mondes qui est emprunté par un personnage. En Sibérie, c'est le chaman qui va effectivement gravir les branches lors du rituel, gravir les branches de cet arbre et représenter une circulation, une montée au ciel avec des dons aux esprits du ciel et des échanges contre des âmes de la vie. Chez nous, l'équivalent, c'est le Père Noël. C'est une autre façon de voir le Père Noël.
Donc, c'est pas forcément un mythe, c'est pas une légende, c'est un chaman.
Voilà, c'est effectif. En Sibérie, vous avez, pendant le rituel, effectivement, le chaman qui, en vrai, va grimper sur l'arbre et puis, quelquefois, même passer à travers le trou à fumée et puis disparaître. Et les gens disent, il est monté au ciel. Et on attend qu'il revienne. Il y a des correspondances entre le chaman et le Père Noël, vraiment dans l'iconographie, par exemple, sur certains tambours chamaniques des quêtes et des selkoupes sur le Moyen Yénisseï en Sibérie. Vous avez des représentations du chaman qui vole à travers le ciel sur un traîneau tiré par des rennes. On a l'impression de l'iconographie de notre sapin de Noël. C'est lié au fait que le renne, le cervidé, avec sa ramure, représente un chemin qui va vers le ciel. En fait, vous avez des évocations, toute une symbolique du cervidé qui sont eurasiatiques et qui font un lien, un substrat mythologique, iconographique entre l'Europe et la Sibérie, qui fait que c'est pas si étonnant qu'on ait des correspondances.
Vous m'avez passé votre vie à casser la gueule à tous les gens qui manifestent pour leur liberté et leurs droits sociaux. Vous êtes les parasites de la nation, pas autre chose.
Tu vois le grand, la tête qui dépasse, ça c'est mon mari. Avec son bras comme ça, ça c'est mon mari, ça. Ça c'est sûr, c'est mon mari. Ouais, il mesure 2 mètres. Et donc moi, je suis à côté de lui, ou peut-être un petit peu devant. Plus rien. J'ai plus rien. Je me souviens seulement du coup. Et après, d'entendre au loin mon mari dire « Mel, Mel, qu'est-ce qui t'arrive ? Lève-toi, lève-toi, Mel, Mel !» Voilà, c'est tout ce que j'ai.
Bon enculé ! T'as vu ce que vous avez fait ? Dégage, dégage !
Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on diffuse un extrait de l'excellent documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, qui a suivi les gilets jaunes face aux violences policières. Mais parce que face au Noël très apaisé de Lévi-Strauss dans les années 50, depuis quelques années, ressurgit une forme de violence. Alors, il y a les gilets jaunes. On pourrait parler aussi d'une certaine violence liée, par exemple, au Black Friday, au Vendredi Noir. On voit des scènes de courses pour avoir un objet le moins cher possible. Est-ce que c'est là que ressurgit la certaine violence qu'on avait oubliée liée à ces fêtes de fin d'année, Charles Stepanoff ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une description vraiment optimiste, assagie de Noël chez Lévi-Strauss dans les années 50. On sent qu'on est dans un idéal qui veut tourner le dos à une violence inouïe que les gens viennent de connaître, qui est la Deuxième Guerre mondiale, même si Lévi-Strauss n'y fait aucune allusion. C'est une espèce de blanc, de trous de mémoire, hein, on sent, y compris chez Lévi-Strauss, on a un rapport apaisé à la mort. Mais là, on se dit avec du recul, mais comment ça se fait après ces génocides, cette violence, cette misère ? Eh bien, c'est cet idéal et cette façon de tourner le dos à la violence, à la mort, qui caractérise l'esprit du temps des Trente Glorieuses. Et il est vrai que 70 ans plus tard, on voit bien quelle distance nous avons pris avec cet idéal-là, que nous avons perdu en fait ces illusions de ressources sans limite, d'abondance, de progrès qui va bénéficier à tout le monde. Non, il y a toujours des pauvres, non, il y a toujours des inégalités. Et oui, les ressources sont en réalité tout à fait limitées et l'avenir même de la planète est compromis. Donc nous avons intériorisé en fait cette limitation des ressources et ça donne lieu à des nouveaux rituels, des nouvelles formes de pratiques. Alors vous évoquiez le Black Friday qui, comme le Père Noël et comme Halloween, est une invention des commerçants, mais qui met en scène autre chose que la générosité sans limite, qui met en scène la pénurie, en fait. Il va falloir se battre pour accéder à la marchandise.
Les prix sacrifiés impliquent des sacrifices de consommateurs eux-mêmes.
Oui, les marchands font des sacrifices, mais il faut les mériter, il faut courir, il faut planter sa tente devant l'entrée du magasin toute la nuit. On dit qu'il y a eu une centaine de morts depuis l'apparition du Black Friday dans les émeutes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais un journaliste dit ça. En tout cas, il y a un ressurgissement de la violence. On peut penser, parmi les célébrations rituelles de Noël, du Nouvel An, on peut penser à ce que les journalistes appellent le rituel des voitures incendiées qui est né à Strasbourg. Il y a un millier de voitures qui sont brûlées chaque année à la Saint-Sylvestre. Alors d'un point de vue anthropologique, oui, il y a quelque chose de rituel puisque c'est chronique, le sens n'est pas tout à fait apparent, il y a quelque chose de mystérieux, il y a de la violence. Donc, et d'ailleurs, le parallèle est intéressant avec le sapin de Noël. Le sapin de Noël vient de Strasbourg, se diffuse en France au 19e, 20e siècle à travers la bourgeoisie. Le rituel des voitures brûlées vient aussi de Strasbourg et se diffuse dans les milieux populaires. C'est une sorte de contrefaite populaire. Autant le Noël embourgeoisé autour du sapin met en scène une pacification, l'espace douillet de l'intérieur bourgeois, autant le rite des voitures incendiées nous montre quelque chose qui est en extérieur, qui est violent. Donc en fait, on a une sorte de lutte des classes qui s'exprime dans une lutte entre des rituels. Et puis, vous évoquiez les gilets jaunes. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est un rituel, mais on voit qu'il y a une expression, là, d'insatisfaction, de mécontentement, de rejet de l'illusion d'une abondance et également répartie et infinie. Et ce qui est frappant, c'est que c'est... Les événements des gilets jaunes, deux ou trois années de suite, se répandaient pendant la période de froid, pendant l'automne, pendant l'hiver, autour de grands feux, sur les ronds-points. Et ça renoue en fait avec une forme de violence de Noël qu'on avait oublié effectivement dans les années 1950, mais qui s'inscrit tout à fait dans une tradition très ancienne de cette violence et liberté des Saturnales, cette violence des fêtes de Noël, des abbés de Déraison, de Liesse.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les abbés de Déraison et de Liesse ?
Oui, donc...
Qui sont une des origines, justement, de Noël, mais qu'on a complètement oublié, masqué par des tonnes de cadeaux et de guirlandes. On a oublié cette origine violente, en fait, de Noël.
Alors, c'est une façon, en fait, violente d'obtenir des cadeaux. Hein, c'est le pillage, tout simplement. Donc, c'est aussi des cadeaux, sauf que c'est pas un gentil Père Noël qui les distribue, c'est les enfants, les jeunes, qui doivent aller eux-mêmes les exiger et éventuellement piller les boutiques, casser...
Plus violent qu'Halloween, finalement.
Oui, parce que c'est pas la même classe d'âge. Mmh. Halloween, c'est vraiment les petits-enfants, alors que les abbés de Déraison, tout ça, c'est les jeunes, les adolescents... Des bandes comme ça de casseurs, on dirait maintenant, au Moyen-Âge, et puis dans les villages, dans des époques finalement assez récentes, jusqu'au XXe siècle, c'est des gens qui ont tous les droits, qui vont se servir. Ça existe encore, d'une certaine manière, mais dans les rituels liés au Père Mai, au mois de mai, en Roumanie, la fête de Baba Louga, cet être qui représente l'esprit phallique du boulot, de la forêt, il va avec ses copains de ferme en ferme prendre et se servir dans les cuisines, chercher de la nourriture. Cette violence, elle est à la fois à Noël et au moment du mois de mai. On peut penser au carnaval. Enfin, c'est des moments saisonniers, en fait, où les grandes ruptures de cycle du cosmos amènent aussi des ruptures de l'ordre social. Et évidemment, l'embourgeoisement de Noël au XIXe siècle va essayer de gommer cette violence-là, d'assagir toute cette violence, la faire disparaître. Et donc, ce qui est frappant, c'est que nous voyons, après les Trente Glorieuses, son ressurgissement, un réensauvagement des fêtes de l'hiver, tout à fait inattendu, mais qui correspond à un nouvel esprit du temps.
Mais alors, c'est dû à la fois au contexte social et politique, comme on l'a souligné pour les Trente Glorieuses, ou est-ce que c'est vraiment lié, en fait, à une forme d'esprit de Noël, en fait ? Est-ce que c'est ça, l'esprit de Noël, finalement ? Ça n'est pas du tout un moment, forcément, de partage, où on se retrouve autour d'un sapin, et puis on va manger, on va être dans l'abondance, que c'est vraiment plutôt un moment de marchandage, où là, en fait, le marchandage apparaît sous une forme très... très violente, de confrontation, d'exigence, où en fait des générations se doivent des choses.
En fait, c'est les deux. C'est peut-être ça qui est le plus difficile, on va dire, pour les modernes.
Pour moi.
On a besoin de classifier, on a besoin d'avoir des catégories. Mm. On a besoin de se dire, ben Noël, ça fête ça. C'est un certain état d'esprit. Et en réalité, dans les rituels, que ce soit des rituels chamaniques ou des rituels ruraux, paysans de l'Europe ancienne, un rituel, c'est quelque chose de complexe qui ne peut pas être assigné à une seule relation. Un rituel va réunir, et c'est ça qui le rend fascinant, des relations qui, dans la vie quotidienne, sont incompatibles. Donc, dans des descriptions du Noël en Provence, par exemple, au XIXe siècle, vous avez à la fois de la gaieté, vous avez des oiseaux qui sont lâchés dans l'église, des chants, et puis vous avez les corporations qui viennent avec les moutons, les représentants des bergers, des troupeaux qui entrent, et il y a de la compétition entre les corporations. Et il y a tout d'un coup des explosions de violence dans l'église, les gens se mettent à se battre, vous avez un service d'ordre avec des couteaux qui sont obligés de blesser des gens pour les calmer, et tout d'un coup ça se calme et on célèbre ensemble et ensuite on festoie, et tout d'un coup ça peut réexploser. En fait, on est dans des moments critiques. Le solstice, c'est un moment critique de lutte entre la nuit et la lumière, ça se répercute aussi dans la célébration. C'est un moment critique où se célèbre un ordre cosmique, mais aussi un désordre cosmique et une potentielle remise en cause de l'ordre. On parlait des abbés de Déraison, des évêques de Liesse, tout ça. C'est une façon de mimer l'ordre de la hiérarchie de la société par des jeunes qui peuvent avoir des droits politiques, des droits de faire des jugements. Ils ont le droit de renverser pendant quelques jours l'ordre établi. Et ce que montraient récemment les anthropologues et l'archéologue David Graeber et David Wengro dans leur livre « Au commencement était », qui fait un grand parcours de l'histoire de l'humanité depuis 10 000 ans, ils insistent beaucoup sur ces fêtes saisonnières des traditions européennes qui ne sont pas du tout anodines, qui ne doivent pas du tout être réduites à un petit épisode folklorique, qui sont un vrai moment où la société en fait, se regarde elle-même en face et remet en cause ses propres institutions par le désordre, le carnaval, la mise en scène de de ces personnages de roi et reine, de mai, de la végétation ou de Noël. C'est un moment de subversion de l'ordre social où la société prend conscience du caractère construit de ces institutions.
Mais ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au moment de Noël, alors c'est beaucoup plus frappant si on allie toute une période en fait d'automne, de début d'hiver, où on comprend dans un même bloc les gilets jaunes, Halloween, le Black Friday, jusqu'à Noël. Il y a vraiment en fait une sorte de bloc où on peut comprendre cette remise en question des institutions, mais Noël jusque-là était plutôt vu comme un rituel qui allait masquer finalement. C'était pas véritablement une fête subversive où on remettait en question les institutions. Donc c'est là où j'ai bien compris que les rituels pouvaient faire coexister des relations et pouvaient avoir des dimensions et des fonctions qui étaient antithétiques. Mais là, la fête de Noël jusque-là n'avait rien de subversif.
Parce qu'on a perdu, effectivement.
Depuis les années 50, je veux dire.
Tout à fait, oui, parce qu'on a perdu sa part sauvage. Alors, et puis, on n'examine pas juste une fête seule, c'est un ensemble, c'est un cycle.
C'est pour ça qu'on prend le cycle, oui. Finalement, allant de la Toussaint, de la fête des morts, jusqu'à
oui.
Noël, par exemple.
C'est ça, oui. Alors, il y a le cycle des 12 jours, c'est entre Noël et la fête de l'Épiphanie. Et puis, de façon plus générale, le cycle qui inclut aussi la fête des morts. Tout ce moment, en fait, de crise, de danger, où les morts viennent nous visiter, où les institutions peuvent être mises en cause, et où le fait même faire ressurgir le temps du mythe, un temps des origines, voyez, c'est une façon de questionner. Pourquoi les choses sont ainsi ? Ça peut se faire de façon plus ou moins violente. Mais le fait de faire participer les animaux aussi, de montrer une sacralité de l'agneau, de l'oiseau, ça remet en cause la domination des humains au quotidien sur les animaux. Là, il y a un aspect subversif extrêmement fort dans ces traditions qui ont l'air folkloriques à première vue et qui, en fait...
Et pas subversif.
Y a une part de subversion et comme je vous disais, on voit la façon dont était célébré Noël, y compris dans les églises, jusqu'au début du XXe siècle, pouvait contenir de la violence, de la subversion. C'était des rituels totaux. Il y avait une espèce de totalité, de caractère cosmique, qui inclut à la fois la violence et la paix, parce qu'il n'y a pas de paix sans violence, il n'y a pas d'apaisement sans une explosion de subversion auparavant.
Donc là, est-ce qu'on va, selon vous, Charles Stepanov, vers finalement une dimension, est-ce qu'on va renouer avec des rites, des rituels beaucoup plus violents à ces périodes-là ?
Probablement, oui. En tout cas, il y a une multitude de propositions de rituels. Ça, c'est vraiment très intéressant pour l'anthropologue. Il y a vraiment de l'innovation parce que des attendus sous-jacents sur les ressources, comme je l'évoquais, l'aspect écologique, c'est notre rapport même au monde qui est remis en cause. Donc la violence, on peut essayer de la camoufler, de la cacher, l'évacuer. C'est une tentation par rapport à l'arbre de Noël de vouloir le domestiquer. Dire, au lieu d'abattre un arbre chaque année, on va l'enraciner. Certaines municipalités écologistes, par exemple, ont proposé, on va planter l'arbre une bonne fois pour toutes. Ou bien on va mettre un sapin de Noël en acier. Alors là, on perd quelque chose. On perd l'idée que l'humanité a besoin de se régénérer dans le non-humain. On perd cet aller-retour qui a cette connexion avec la forêt, avec le vivant, qui implique, dans les fêtes populaires, d'aller abattre effectivement un arbre chaque année. Ça, c'est une option. Le camouflage de la violence... ça ne résout pas en fait le problème de la violence. Et puis, d'un autre côté, au contraire, l'exacerber, la montrer, la faire ou la ritualiser. Toutes sortes d'options. On voit plein d'innovations en fait en ce moment.
Merci beaucoup Charles Stepanov de vous. Alors on peut lire cet article, Père Noël et Black Friday, le retour de la furie hivernale, c'est disponible sur le site La Vie des Idées et puis aussi L'Animal et la Mort, Chasse, Modernité et Crise du Sauvage, disponible aux éditions La Découverte. Et puis bien sûr vous pouvez lire Le Père Noël supplicié de Claude Lévi-Strauss, c'est Dont nous sommes tous des cannibales, disponible aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow.
Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laure Dallest et F. Coulot, réalisation Somaya Dabège. Grand merci pour cette semaine. Prise de son Alex Dang. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.
Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.